La lettre d'amour du roi Georges. On frappa. Monsieur Barnett, de l'agence Barnett et compagnie, qui somnolait sur son fauteuil dans l'attente du client, répondit « Entrez !» Tout de suite, en voyant le nouveau venu, il s'écria cordialement « Ah, l'inspecteur Béchou! Ça, c'est gentil de me rendre visite. Comment allez-vous, mon cher ami ?» L'inspecteur Béchou contrastait, comme tenue et comme manière, avec le type courant de l'agent de la sûreté. Il visait à l'élégance, exagérait le pli de son pantalon, soignait le nœud de sa cravate et laissait glacer ses faux cols. Il était pâle, long, maigre, chétif, mais pourvu de deux bras énormes, à biceps saillants, qui semblaient avoir dérobé à un champion de boxe et accroché tant bien que mal à sa carcasse de poids-plume. Il en était très fier. D'ailleurs, un air de grande satisfaction habitait sa face juvénile. Le regard ne manquait pas d'intelligence et d'acuité. « Je passais par là, » répondit-il, « et je me suis dit, connaissant vos habitudes régulières, tiens, mais c'est l'heure de Jim Barnett, si je m'arrêtais. » Pour lui demander conseil, acheva Jim Barnett. « Peut-être, avoua l'inspecteur, que la clairvoyance de Barnett étonnait toujours. » Il restait indécis, cependant, et Barnett lui dit, « Qu'y a-t-il donc ? La consultation paraît difficile aujourd'hui ?» Béchou frappa la table du poing et la force de son poing participait du formidable levier que constituait son bras. « Eh bien oui, j'hésite un peu. Trois fois déjà, Barnett, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble à des enquêtes malaisées. Vous comme détective privé, moi comme inspecteur de police, et les trois fois, j'ai cru constater que les personnes qui avaient sollicité votre concours, la baronne à Sermann, par exemple, se séparaient de vous avec une certaine rancune. Comme si j'avais profité de l'occasion pour les faire chanter, interrompit Barnett. Non, non, je ne veux pas dire. Barnett lui frappa sur l'épaule. Inspecteur Béchou, vous n'ignorez pas la formule de la maison, renseignement gratuit. Eh bien, je vous donne ma parole d'honneur que jamais vous entendez, jamais je ne demande un sou à mes clients et que jamais je n'accepte deux un centime. Béchou respira plus librement. Merci, dit-il. Vous comprenez que ma conscience professionnelle ne me permet de collaborer qu'à de certaines conditions. Mais, en vérité, excusez-moi d'être indiscret, quelles sont donc les ressources de votre agence Barnett ? Je suis commandité par plusieurs philanthropes qui désirent garder l'anonymat. Béchou n'insista pas. Et Barnett reprit. Et alors, Béchou, où cela se passe-t-il, votre affaire ? Près de Marly, il s'agit de l'assassinat du bonhomme Maucherel. Vous en avez entendu parler ? Moi, vaguement. Ça m'étonne pas, les journaux s'y intéressent encore peu, bien que l'affaire soit diablement curieuse. Un coup de couteau, n'est-ce pas ? Oui, entre les deux épaules. Des empreintes digitales sur le couteau ? Non, le manche avait été sans doute enveloppé d'un papier que l'on retrouva en cendres. Et pas d'indice ? Aucun. Du désordre, des meubles renversés, en outre le tiroir du table fracturé, mais sans qu'il soit possible de dire pourquoi on l'a fracturé, ce que l'on y a pris. Et où en est l'instruction ? À l'heure actuelle, on confronte le sieur Leboc, fonctionnaire en retraite, avec les trois cousins godus, trois gredins de la pire espèce, maraudeurs et braconniers. Des deux côtés, sans la moindre preuve, on s'accuse réciproquement de l'assassinat. Voulez-vous que nous y allions en auto ? Rien ne vaut la réalité d'un interrogatoire. Bon, allons-y. Un mot encore, Barnett. Monsieur Farbery, qui instruit l'affaire et qui espère bien ainsi attirer l'attention sur lui et conquérir un poste à Paris, est un magistrat pointilleux, susceptible, qui supporterait mal ces petits airs moqueurs qu'il vous arrive de prendre avec les représentants de la justice. Je vous promets, Béchou, d'avoir pour lui les égards qu'il mérite. à mi-distance du bourg de Fontine à la forêt de Marly, au milieu de bois taillis qu'une bande de terrain sépare de la forêt, se trouve dans une enceinte de murs peu élevée une maisonnette à un seul étage avec un modeste potager. La Chaumière était habitée, 8 jours encore auparavant, par un ancien libraire, le bonhomme Vaucherel, qui ne quittait point son petit domaine de fleurs et de légumes que pour bouquiner de temps à autre sur les quais de Paris. Très avare, il passait pour riche, bien qu'il vécût médiocrement. Il ne recevait personne, sauf son ami le sieur Leboc, qui demeurait à Fontine. La reconstitution du crime et l'interrogatoire du sieur Leboc avaient déjà eu lieu, et les magistrats déambulaient dans le jardin lorsque Jim Barnett et l'inspecteur descendirent d'auto. Béchou se fit reconnaître des agents qui gardaient l'entrée de la Chaumière et, suivi de Barnett, rejoignit le juge d'instruction et les substituts au moment où ceux-ci s'arrêtaient à l'un des angles du mur. Les trois cousins godus commençaient leur déposition. C'étaient trois valets de ferme, à peu près du même âge, qui n'avaient rien de commun entre eux qu'une même expression sournoise et têtue, sur des faces entièrement dissemblables. L'aîné affirma : « Oui, monsieur le juge, c'est bien là qu'on a sauté pour porter secours. » « Vous veniez de Fontine ?»« Oui, de Fontine, et en retournant au travail, sur le coup de 2 heures, nous bavardions avec la mère Denise, près d'ici, à la lisière du Tailly, quand les cris ont commencé. On appelle au secours, que je dis, ça vient de la Chaumière. » Le bonhomme Vaucherel, vous comprenez, monsieur le juge, si on le connaissait, on a donc couru, on a sauté le mur, pas commode avec les tessons de bouteille, et on a traversé le jardin. Mais où étiez-vous exactement à l'instant où la porte de la maison s'est ouverte ? Ben ici même, dit l'aîné des Godus, qui mena le groupe vers une plate-bande. « Sommes toutes à 15 mètres du perron, » fit le juge en désignant les 2 marches qui montaient au vestibule. « Et c'est de là que vous avez vu apparaître. »« Ouais, monsieur Leboc lui-même. Je l'ai vu comme je vous vois. Il sortait d'un bond comme quelqu'un qui se sauve, et en nous voyant, il est rentré de même. »« Vous êtes sûr que c'était lui ? » ?»« Sûr devant Dieu. » »« Et vous aussi ?» demanda le juge aux 2 autres. Ils affirmèrent, oh, sûr devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais voilà 5 ans qu'il habite près de nous, au débouché de Fontine, déclara l'aîné, même que j'ai porté du lait chez lui. Le juge donna des ordres. La porte du vestibule fut ouverte, et de l'intérieur vint un homme d'une 60aine d'années, vêtu de coutil marron, coiffé d'un chapeau de paille, à figure rose et souriante. « Monsieur Leboc !» articulèrent en même temps les 3 cousins. Le substitut prononça à part. Il est évident qu'aucune erreur n'est possible à cette distance et que les Godus n'ont pas pu s'abuser sur l'identité du fugitif, c'est-à-dire de l'assassin. « Certes, » fit le juge, « mais... disent-ils la vérité ? Est-ce réellement, monsieur Leboc, qu'ils ont vu ? Continuons, voulez-vous ? » Tout le monde pénétra dans la maison et envahit une vaste salle où les murs étaient comme tapissés de livres. Quelques meubles seulement. Une grande table, celle dont un des tiroirs avait été fracturé. Un portrait en pied et sans cadre du bonhomme Vaucherel, sorte de pochade de colorier, comme peut en faire un rapin qui s'amuse à chercher surtout la silhouette. Par terre, un mannequin représentant la victime. Le juge reprit. « À votre arrivée, Godu, vous n'avez pas revu M. Leboc ?»« Non, on entendait des gémissements par-ci et on est venu tout de suite. » Donc M. Vaucherel vivait. « Oh, pas bien fort, il était à plat ventre avec son couteau entre les épaules. On s'est mis à genoux. Le pauvre monsieur disait des mots. Que vous avez entendu ? Non, non, un seul tout au plus, le nom de Lebock, qu'il répéta plusieurs fois. Monsieur Lebock, monsieur Lebock. Et il mourut en se tendant sur lui-même. Alors on a couru partout, mais monsieur Lebock n'était plus là. Il avait dû sauter par la fenêtre de la cuisine, qui était ouverte, et puis s'en aller, par le petit chemin de cailloux qui reste à couvert, jusque derrière chez lui. Alors on a été tous les trois à la gendarmerie, et on a raconté la chose. Le juge posa encore quelques questions, fit préciser de nouveau l'accusation très nette que les cousins portaient contre M. Lebock, et se tourna vers celui-ci. M. Lebock avait écouté sans interrompre et sans même que sa paisible attitude fût altérée par la moindre indignation. On eût dit que l'histoire des Godus lui semblait si stupide qui ne doutait point que cette stupidité n'apparût à la justice avec autant de force qu'à lui. On ne réfute pas de telles bêtises. « Vous n'avez rien vu, monsieur Lebock ? Rien de nouveau. Vous persistez à soutenir. Oh, je persiste à soutenir ce que vous savez aussi bien que moi, monsieur le juge d'instruction, c'est-à-dire la vérité. » Toutes les personnes de Fontine que vous avez interrogées ou faites interroger ont répondu « Monsieur Lebock ne sort jamais de chez lui dans la journée. À midi, on lui apporte de l'auberge son déjeuner et de 1h à 4, il lit devant sa fenêtre et fume sa pipe. Oh, il faisait beau ce jour-là. Ma fenêtre était ouverte et 5 passants m'ont aperçu. » Comme chaque après-midi, d'ailleurs, ils m'aperçoivent à travers la grille de mon jardin. Je les ai convoqués pour la fin de la journée. Tant mieux, ils confirmeront leur déposition. Et puisque je n'ai pas le don d'ubiquité et que je ne puis pas être à la fois ici et chez moi, vous admettrez, monsieur le juge, qu'on ne m'a pas vu sortir de la chaumière, que mon ami Vaucherel n'a pas pu prononcer mon nom en bourrant, et que, en définitive, les trois Godus sont d'abominables coquins. Contre lesquels, n'est-ce pas, vous retournez l'accusation d'assassinat ? Oh, oh, simple hypothèse. Cependant, une vieille femme, la mère Denise, qui ramassait les fagots, déclare qu'elle causait avec eux à l'instant où se sont élevés les cris. Ben oui, elle causait avec deux d'entre eux, mais où était le troisième ? Un peu en arrière, l'a-t-elle vu ? Oui, elle le croit, elle n'est pas très sûre. Alors, monsieur le juge, qui vous prouve que le troisième Godu n'était pas ici même en train d'exécuter le coup ? Et qui prouve que les deux autres, postés aux environs, n'aient pas sauté le mur, non pour secourir la victime, mais pour étouffer ses cris et l'achever ? Mais en ce cas, quelle raison les porterait à vous accuser, vous, personnellement ? J'ai une petite chasse. Les cousins Godus sont des braconniers impénitents. Deux fois, sur mes indications, ils ont été pris en flagrant délit et condamnés. Aujourd'hui, comme il leur faut coûte que coûte accuser afin de n'être pas accusé, ils se vengent. Simple hypothèse, comme vous le dites, mais pourquoi aurait-il tué ? Je l'ignore. Vous n'imaginez pas ce qui a pu être dérobé dans le tiroir ? Non, monsieur le juge d'instruction, non. Mon ami Vaucherel, qui n'était pas riche, quoi qu'on dise, avait placé ses petites économies chez un agent de change et ne gardait rien ici. Aucun objet précieux ? Aucun. Ces livres n'ont pas de valeur, comme vous pouvez vous en assurer. Et c'était son regret. Il eût voulu s'offrir des éditions rares, des reliures anciennes, mais il n'en avait pas les moyens. Il ne vous a jamais parlé des cousins Godus ? Non, jamais. Si grand que soit mon désir de venger la mort de mon pauvre ami, Je ne veux rien dire qui ne soit absolument véridique. » L'interrogatoire se poursuivit. Le juge pressa de questions les trois cousins. Mais, somme toute, la confrontation d'accusés n'apporta aucun résultat. Après avoir éclairci quelques points secondaires, les magistrats se rendirent à Fontine. La propriété de M. Leboc, située sur les confins du village, n'était pas plus importante que la chaumière. Une haie bien taillée et très haute entourait le jardin. À travers la grille d'entrée, on apercevait, au-delà d'une petite pelouse toute ronde, une maison de briques badigeonnée de blanc, comme à la chaumière, 15 à 20 mètres environ de distance. Le juge pria M. Leboc de prendre la place qu'il occupait au jour du crime. M. Leboc s'assit donc à sa fenêtre, un livre sur ses genoux et sa pipe aux lèvres. Là non plus, l'erreur n'était pas possible. Toute personne passant devant la grille et jetant un coup d'œil sur la maison ne pouvait pas ne pas voir distinctement M. Leboc. Les cinq témoins convoqués, paysans ou boutiquiers de Fontine, confirmèrent leur déposition et de telle façon que la présence de M. Leboc le jour du crime entre midi et 4 heures ne pouvait pas faire plus de doute que sa présence actuelle devant les magistrats. Ceux-ci ne cachèrent pas leur embarras devant l'inspecteur, et le juge d'instruction à qui Béchoux présenta son ami Barnett comme un détective d'une extraordinaire pénétration, ne put s'empêcher de dire « Ces affaires embrouillées, monsieur, qu'en pensez-vous ?»« Oui, qu'en pensez-vous » appuya Béchoux, qui rappela d'un signe à Barnett ses recommandations de courtoisie. Jim Barnett avait assisté sans mot dire à toute l'enquête de la chaumière, et plusieurs fois Béchoux l'avait interrogé vainement. Il se contentait de hocher la tête et de marmotter quelques monosyllabes. Il répondit aimablement « Oh oui, très embrouillé, monsieur le juge d'instruction. N'est-ce pas, au fond la balance est égale entre les adversaires. D'une part, il y a l'alibi de monsieur Leboc, lequel incontestablement n'a guère pu quitter sa maison de l'après-midi. Mais d'autre part, le récit des trois cousins me semble de bon aloi. » De bon aloi, en effet, à droite ou à gauche, il y a sûrement ignominie et comédie abjecte. Mais est-ce à droite ou à gauche? L'innocence est-elle chez les trois? Godu, personnage louche aux figures de brute? Et le coupable serait-il le sourire M. Leboc, dont le visage est tout candeur et sérénité? Ou bien doit-on supposer que les faces de tous les acteurs du drame sont conformes au rôle qu'ils y jouent, qu'ils y ont joué, et M. Leboc étant innocent et l'ego du coupable? Somme toute, dit M. Formerie avec satisfaction, vous n'êtes pas plus avancé que nous. Oh, si, beaucoup plus, affirma Jim Barnett. M. Formerie pinça les lèvres. En ce cas, dit-il, faites-nous part de vos découvertes. N'y manquerez pas au moment voulu. Aujourd'hui, je vous demanderai seulement, monsieur le juge d'instruction, de convoquer un nouveau témoin. Un nouveau témoin? Oui. Et son nom, son adresse, prononça M. Formerie tout à fait dérouté. Je ne le connais pas. Hein, que dites-vous? Monsieur Formerie commençait à se demander si l'extraordinaire détective ne se payait pas sa tête. Béchoux était fort inquiet. À la fin, Jim Barnett se pencha vers Monsieur Formerie et montrant du doigt le sieur Leboc, qui 10 pas plus loin fumait toujours consciencieusement à son balcon, Il murmura en confidence. Dans la poche secrète du portefeuille de M. Leboc, il y a une carte de visite que percent 4 petits trous disposés en losange. Elle vous donnera le dit nom et la dite adresse. Cette communication saugrenue n'était point pour rendre son aplomb à M. Formery, mais l'inspecteur Béchoux n'hésita pas. Sans invoquer le moindre prétexte, il se fit remettre le portefeuille de M. Leboc. Il y a une carte de visite que percent 4 trous en losange et qui représentait ce nom, Miss Elizabeth Lovendall, avec cette adresse au crayon bleu, Grand Hôtel Vendôme, Paris. Les deux magistrats se regardèrent avec surprise. Béchoux rayonnait, cependant que M. Leboc s'écriait, sans le moindre embarras, « Bon Dieu, l'ai-je cherché cette carte, et mon pauvre ami Vaucherel donc ?»« Et pour quelle raison la cherchait-il ? » ?»« Oh, ça vous m'en demandez trop, monsieur le juge. Sans doute avait-il besoin de l'adresse ci-dessus. » »« Mais ces 4 trous ?»« Ben, 4 trous au poinçon que j'y ai fait pour marquer les 4 points d'un écarté gagné par moi. » Nous jouions souvent à l'écarté, tous les deux, et j'ai dû par inadvertance mettre cette carte de visite dans mon portefeuille. L'explication fort plausible fut donnée tout naturellement. M. Formery l'accueillit avec vos faveurs, mais il restait à savoir comment Jim Barnett avait pu deviner la présence de cette carte de visite dans la poche secrète d'un homme qu'il n'avait jamais vu. Cela, il ne le dit point. Il souriait aimablement et réclamait avec insistance la convocation d'Elizabeth Lovendall. On la lui accorda. Miss Lovendall était absente de Paris et ne vint que 8 jours plus tard. L'instruction ne fit pas de progrès au cours de cette semaine, bien que M. Formery poursuivit ses investigations avec un acharnement que surexcitait le souvenir désagréable de Jim Barnett. « Vous l'avez horripilé, » dit l'inspecteur Béchoux à Barnett, l'après-midi du jour où l'on se réunit à la chaumière. « C'est au point qu'il avait résolu de refuser votre collaboration. »« Alors, dois-je m'en aller ?»« Non, 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 il y a du nouveau. »« Dans quel sens ?»« Ben, je crois qu'il a pris position. » Tant mieux, c'est sûrement la mauvaise position, on va rigoler. Je vous en prie, Barnett, de la déférence. Bon, de la déférence et du désintéressement, je vous le promets, Béchoux. L'agence est gratuite, rien dans les mains, rien dans les poches. Mais je vous assure que votre formerie me porte sur les nerfs. Le sieur Leboc attendait déjà depuis une demi-heure. Miss Lovendall descendit d'automobile, puis M. Formery arriva, tout guilleret, et s'écria aussitôt « Oh bonjour, M. Barnett, nous apportez-vous de bonnes nouvelles ?»« Peut-être, monsieur le juge d'instruction. »« Eh bien, moi aussi. Ben, nous allons d'abord expédier votre témoin, et rapidement. »« Aucun intérêt, votre témoin, du temps perdu, enfin !» Elizabeth Lovendell était une vieille Anglaise aux cheveux gris ébouriffés, aux allures excentriques, vêtue sans recherche, qui parlait français comme une Française, mais avec une telle volubilité qu'on avait peine à comprendre. Dès son entrée et avant toute question, elle partit à grande allure. « Oh, ce pauvre monsieur Vaucherel, assassiné, un si brave monsieur et si curieux homme !» Alors vous désirez savoir si je l'ai connu ? Oh, pas beaucoup. Une fois seulement, je suis venu ici pour une affaire. Je voulais lui acheter quelque chose. L'accord n'est pas fait sur le prix. Je devais le revoir après avoir consulté mes frères. Ce sont des gens connus, mes frères. Les plus gros, comment dites-vous, les plus gros épiciers de Londres. Monsieur Formery essaya de canaliser ce flot de paroles. Quelle chose désiriez-vous acheter, mademoiselle? Oh, un petit bout de papier, tout petit, du papier qui pourrait s'appeler aujourd'hui la pelure d'oignon. Et qui a de la valeur? Oh, beaucoup pour moi. Et j'ai eu tort de lui dire. Vous saurez, cher monsieur Vaucherel, que la mère de ma grand-mère, la jolie Dorothée, a eu comme soupirant le roi Georges IV lui-même, et qu'elle gardait les 18 lettres d'amour reçues de lui dans les 18 tomes reliés en veau d'une édition de Richardson, une par volume. Or, à sa mort, notre famille a trouvé les volumes, sauf le 14e qui avait disparu avec la lettre numéro 14. La plus intéressante parce qu'elle prouve, on le savait, que la très jolie Dorothée a manqué à ce devoir 9 mois avant la naissance de son fils aîné. Alors vous comprenez, mon beau monsieur Vaucherel, comme nous serions heureux de retrouver cette lettre. Les Lowendal, descendants du roi Georges, cousins du roi d'aujourd'hui, une telle chose nous vaudrait de la gloire, des titres. Elisabeth Lowendal respira et, continuant le récit de sa démarche, auprès du bonhomme Vaucherel reprit. Et puis, mon bon monsieur Vaucherel, voilà qu'après 30 ans de recherche et d'annonce, j'ai su que l'on avait vendu dans une vente publique un lot de volumes dans le 14e tome de Richardson. Alors je cours chez l'acheteur, un bouquiniste du quai Voltaire, lequel me renvoie chez vous, à qui le livre appartient depuis hier. En effet, me dit ce bon monsieur Vaucherel, qui me montra le tome 14 de Richardson. Regardez, lui dis-je, la lettre numéro 14 doit être dans le dos du volume, sous la reliure. Il le regarde, devient tout pâle et me dit: Combien l'achetez-vous? Et c'est là que j'ai vu ma bêtise. Si je n'avais pas tardé de la lettre, j'aurais eu le volume pour 50 francs. Alors j'en ai offert 1 000. Le bon monsieur Vaucherel se mit à trembler et demanda 10 000 francs. J'acceptai. Il perdit la tête. Moi aussi, c'était, vous savez, comme aux enchères publiques, 20 000, 30 000. À la fin, il exigeait 50 000 et il criait comme un fou, les yeux tout rouges. 50 000, pas un sou de moins. Mais de quoi acheter tous les livres que je voudrais, les plus beaux, 50 000 francs. Il voulait tout de suite un acompte, un chèque. Je lui promis de revenir, et il jeta le livre dans le tiroir de cette table, ferma à clé et me laissa partir. Elisabeth Lowendal compléta son histoire par une suite de détails inutiles que l'on n'écouta point d'ailleurs. Depuis un moment, quelque chose retenait davantage l'attention de Jim Barnett et de l'inspecteur Béchoux. C'était le visage crispé de M. Formerie. À n'en point douter, une émotion violente l'avait envahi, et il souffrait d'une sorte de joie excessive qui le bouleversait. À la fin, il chuchota, la voix sourde et l'expression emphatique: Somme toute, mademoiselle, vous réclamez le tome 14 des œuvres de Richardson. Oui, monsieur. Le voici, dit-il en tirant de sa poche, avec un geste théâtral, un petit livre relié en veau. Est-ce possible? S'écria l'anglaise enthousiasmée. Oui, le voici, répéta-t-il. Mais la lettre d'amour du roi Georges ne s'y trouve pas. Je l'y aurais vue. Mais je saurais bien la découvrir, puisque j'ai su découvrir le volume que l'on cherche depuis 100 ans, et puisque le voleur de l'un est fatalement le voleur de l'autre. Monsieur Farmerie se promena un instant, les mains au dos, en savourant son triomphe. Et soudain, il tapota la table à petits coups et conclut: Oh, nous connaissons enfin la cause de l'assassinat. Un homme aux écoutes entendit la conversation de Vaucherel et de Miss Lowendal, et nota l'endroit où Vaucherel enfermait le livre. Quelques jours plus tard, cet homme tuait pour voler et pour vendre plus tard la lettre numéro 14. Quel était cet homme? Godu, le valet de ferme, en qui je l'ai cessé de voir le coupable. Hier, au cours d'une perquisition, j'ai remarqué une fente anormale entre les briques disjointes de sa cheminée. J'ai fait élargir le trou. Un livre était là, un livre qui évidemment provenait de la bibliothèque Vaucherel. Les révélations inattendues de Miss Lavendale prouvent la justesse de ma déduction. Je vais mettre sous mandat les trois cousins Godu, chenapans fieffés et assassins du bonhomme Vaucherel et criminels accusateurs de Monsieur Lebocq. Toujours solennel, Monsieur Formerie tendit la main en signe d'estime à Monsieur Lebocq, qui le remercia avec effusion. Puis, comme un galant homme, il conduisit Elisabeth Lavendale jusqu'à son auto, revint vers les autres et s'écria en se frottant les mains: Allons, ah oh, je crois que l'affaire fera du bruit et que les oreilles de Monsieur Formerie tinteront agréablement. Que voulez-vous, Monsieur Formerie est un ambitieux et la capitale l'attire. On se mit en marche vers la maison des Godu où il avait donné l'ordre que fussent amenés sous bonne escorte les trois cousins. Le temps était beau. Suivi de Monsieur Lebocq, encadré par l'inspecteur Béchou et par Jim Barnett, Monsieur Farmery laissait déborder son contentement et d'un ton gouailleur: Ah, mon cher Barnett, ce fut rondement mené! Et plutôt dans un sens contraire à vos prévisions, car enfin, vous étiez hostile à Monsieur Lebocq. Mais j'avoue en effet, Monsieur le juge d'instruction, confessa Barnett, que je me suis laissé influencer par cette satanée carte de visite. Figurez-vous qu'elle se trouvait sur le plancher de la chaumière lors de la confrontation, que le sieur Lebocq s'en était rapproché et que tout doucement il avait mis le pied droit dessus. En s'en allant, il l'emportait ainsi, collée à sa chaussure, l'en détachait alors et la glissait dans son portefeuille. Or, l'empreinte de sa semelle droite dans la terre mouillée me fit voir que la dite semelle portait quatre pointes disposées en losange, et par conséquent, que le sieur Lebocq, sachant qu'il avait oublié cette carte sur le plancher, et ne voulant pas que l'on connût le nom et l'adresse d'Elisabeth Lavendel, avait combiné son petit manège. Et de fait, c'est grâce à cette carte de visite. Monsieur Formerie éclata de rire. Mais c'est de l'enfantillage, mon cher Barnett. En voilà des complications inutiles. Comment peut-on s'égarer ainsi? Un de mes principes, voyez-vous, Barnett, c'est qu'il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Contentons-nous des faits tels qu'ils s'offrent à nous, sans essayer de les adapter coûte que coûte à des idées préconçues. On approchait de la maison de Monsieur Lebocq, le long de laquelle il fallait passer pour se rendre chez les Godu. Monsieur Farmery prit le bras de Barnett et continua cordialement son petit cours de psychologie policière. Votre grand tort, Barnett, puis n'avoir pas voulu admettre comme intangible cette vérité si simple pourtant, qu'on ne peut pas être deux à deux endroits à la fois. Tout est là, monsieur Lebocq, fumant à fenêtre, ne pouvait en même temps assassiner à la chaumière. Tenez, monsieur Lebocq est derrière nous, n'est-ce pas? Et voici la grille de sa maison à 10 pas devant nous. Eh bien, il est impossible d'imaginer un miracle par lequel Monsieur Lebocq serait à la fois derrière nous et à sa fenêtre. Monsieur Farmery, juge d'instruction, sauta sur place et poussa une exclamation de stupeur. Qu'y a-t-il? Lui demanda Béchou. Il tendit le doigt vers la maison. Là-bas, là-bas. À travers les barreaux de la grille, de l'autre côté de la pelouse, on apercevait, 20 mètres plus loin, en train de fumer sa pipe dans le décor de sa fenêtre ouverte, Monsieur Lebocq. Monsieur Lebocq qui pourtant se trouvait également près du groupe sur le trottoir. Vision d'horreur, hallucination, fantôme effrayant. Ressemblance incroyable! Mais qui donc jouait là-bas le rôle du véritable sieur Lebock que M. Formery tenait par le bras? Béchou avait ouvert la grille et courait. M. Formery s'élança aussi vers l'image diabolique du sieur Lebock qui l'interpellait et menaçait. Mais l'image ne semblait pas s'émouvoir et ne bougeait pas. Mais comment se fut-elle émue et comment eut-elle bougé, puisque, ils le constatèrent de plus près, ce n'était rien qu'une image, une toile qui remplissait exactement le cadre de la fenêtre et qui offrait en profondeur, brossée de la même façon et par la même main évidemment que le portrait du bonhomme Vaucherel à la chaumière, la silhouette du sieur Lebock en train de fumer sa pipe. Monsieur Formery se retourna. Près de lui, le souriant, placide et couperosé monsieur Lebock n'avait pas pu soutenir l'attaque imprévue et s'était effondré comme sous un coup de massue. Il pleurait et il avouait bêtement. Oh, j'avais perdu la tête, j'ai frappé sans le vouloir. Je voulais être de moitié avec lui, il m'a refusé. Alors, oh, j'ai perdu la tête, j'ai frappé sans le vouloir. Il se tut. Et dans le silence, la voix de Jim Barnett, qui se faisait aigre, méchante et gouailleuse, retentit. Qu'en dites-vous, monsieur le juge d'instruction? Un joli coco que votre protégé Lebock. Quelle maîtrise dans la préparation de son alibi! Et comment les passants inattentifs de chaque jour n'eût-il pas cru voir de loin le véritable Lebock? Pour moi, je me suis douté du coup, dès le premier jour, en voyant le bonhomme Vaucherel sur sa toile. Est-ce que par hasard le même artiste n'aurait pas dessiné la silhouette de son ami Lebock? J'ai cherché, oh, pas bien longtemps, tellement Lebock était sûr que nous serions trop bêtes pour découvrir son truc. La toile était roulée dans le coin d'un hangar sous des bas d'ustensiles hors d'usage. Je n'ai eu qu'à la clouer ici, tout à l'heure, tandis qu'il se rendait à votre convocation. Et voilà comment on peut en même temps assassiner la chaumière et fumer sa pipe à domicile. Jim Barnett était féroce. Sa voix pointue déchirait l'infortuné M. Formery. Faut-il qu'il en ait perpétré dans sa vie d'honnête homme? Est-ce beau sa parade au sujet de la carte de visite? Les quatre trous pour marquer les quatre points d'un écarté? Et le livre qu'il a été déposé l'autre après-midi, où je le suivais, dans la cheminée des Godus, et la lettre anonyme qu'il vous a envoyée, car je suppose bien que c'est cela qui vous a déclenché, monsieur le juge d'instruction. Sacré Lebock! Oh, tu m'as fait bien rigoler avec ta face de petit vieux bien propre. Canaille, va! Très pâle, monsieur Formery se contenait. Il observait le ciel Lebock. À la fin, il murmura. « Mais ça ne m'étonne pas, un regard faux, les manières obséquieuses, quel bandit !» Une colère subite l'anima. « Oui, un bandit, et je vais vous mener par un petit chemin. Mais d'abord la lettre numéro 14, où est-elle ?» Incapable de résister, le sieur Lebock balbutia. Au creux de la pipe qui est suspendue contre le mur de la pièce à gauche, cette pipe n'est pas débourrée de ses cendres, la lettre y est. » On entra vivement dans la pièce. Béchou trouva aussitôt la pipe et secoua les cendres. Mais il n'y avait rien au creux du fourneau, aucune lettre. Ce qui parut confondre le sieur Lebock et qui mit le comble à l'exaspération de M. Formery. Menteur, imposteur misérable! Ah, tu peux être sûr que tu parleras, gredin, et que tu me la rendras, cette lettre! Cependant, les yeux de Béchou et de Barnett s'étaient rencontrés. Barnett souriait. Béchou crispa les poings. Il comprenait que l'agence Barnett et compagnie avait une façon toute spéciale d'être gratuite, et il s'expliquait comment Jim Barnett, tout en jurant à bon droit qu'il ne demandait jamais un centime à ses clients, pouvait mener une confortable existence de détective privé. Il s'approcha de lui et murmura : Vous êtes d'une jolie force, c'est digne d'Arsène Lupin. Quoi ? Fit Barnett d'un air ingénu. Ben, l'escamotage de la lettre. Ah oui, vous avez deviné. Parbleu. Que voulez-vous ? Je collectionne les autographes des rois d'Angleterre. 3 mois plus tard, à Londres, Elizabeth Lovendale reçut la visite d'un certain gentleman très distingué qui se fit fort de lui procurer la lettre d'amour du roi George. Il réclamait la bagatelle de 100 000 francs. Les négociations furent laborieuses. Elizabeth consulta ses frères, les plus gros épiciers de Londres. Ils se débattirent, refusèrent, puis finalement cédèrent. Le gentleman très distingué toucha donc 100 000 francs et détourna en outre tout un wagon d'épicerie fine dont on ne sut jamais ce qu'il était devenu.